Et si nous redevenions humains? Sophie vous invite à questionner vos croyances pour aller plus loin dans votre quête de conscience au service du vivant. Ce podcast est fait pour encourager les chercheuses et les chercheurs en humanité, leur donner des clés issues de l'expérience concrète de Sophie dans les domaines de la parentalité, des collectifs et de l'accompagnement de l'enfant. Bonne écoute!
Bonjour, et ben voilà, je suis de retour après ces fêtes de Noël comme vous tous, et j'avais envie de qu'on se pose la question ensemble, c'était comment les relations à Noël? Parce que je suis sûre que chacun d'entre nous vit des choses intenses, plus ou moins agréables, plus ou moins sympathiques, plus ou moins concordantes, et qu'il y aurait pas mal à dire sur tout ce qui se passe dans les familles. Retourner en famille, c'est toujours l'occasion de mesurer où j'en suis avec mes parents, avec mes frères et sœurs. Est-ce que les relations sont toujours irritantes, irritables, ou est-ce que au contraire, il y a des personnes avec qui les souvenirs sont paisibles, les relations sont tranquilles, y compris les parents. Et en fait, c'est très révélateur d'observer comment ça se passe aujourd'hui avec mes parents, dans la relation que j'ai avec eux, mais aussi dans la relation qu'ils ont avec mes enfants et les interactions que je peux observer entre mes parents et mes enfants et comment est-ce que ça vient activer ou pas des schémas relationnels plus ou moins sensibles, c'est-à-dire plus ou moins émotionnels qui vont peut-être venir gratter sur des sujets qui sont encore très irritables, encore très sensibles. Pour ma part, j'ai été sollicitée sur plusieurs thématiques pendant ces vacances de Noël. D'abord, il y a cette thématique de l'enfant roi qui est encore venue taper à la porte. Et je mesure combien elle est vivante en ce moment dans les prises de conscience. Et je mesure mal où nous en sommes collectivement avec cette question. Mon sentiment, c'est qu'effectivement, il y a eu une place qui a été faite à une pédagogie de la bienveillance, à l'écoute de l'enfant. Et c'est pas nouveau. Je pense que ça s'est vraiment démocratisé au moment de Françoise Dolto, qui avait une tribune et une audience réelle, donc qui a été un peu une star de la petite enfance à un moment donné, et que l'on a beaucoup écouté. Et son émergence correspond un peu aux révolutions des années 70, où on a remis en question beaucoup de choses, on a cherché de la liberté, on a cherché des nouveaux modèles de société, on a cherché à se libérer d'un carcan autoritariste, d'un système productiviste qui aliène l'individu. Dans ce mouvement de réflexion, il y a eu bien sûr celle qui concerne les enfants, à savoir comment peut-on rendre une écoute à l'enfant, lui rendre hommage, lui rendre de l'autonomie, de la considération, plutôt que de perpétuer la forme relationnelle patriarcale qui dominait à cette époque et depuis des générations. Donc pour moi, c'est un peu le début, même si c'est toujours difficile de parler de début parce qu'il y a toujours des précurseurs qui sont bien antérieurs. Mais c'est quand même le début d'une amorce d'abolition de la relation dominant-dominée pour s'approcher petit à petit d'une relation plus équitable avec l'enfant. Ce mouvement a été soutenu et étayé par divers courants scientifiques comme l'éthologie humaine, avec cette théorie de l'attachement qui a bouleversé notre regard sur l'enfant et notre conscience de la relation parent-enfant et tout ce qui va avec cette relation d'attachement, c'est-à-dire la nécessité de construire des relations bienveillantes, de vraies relations. Donc on a beaucoup parlé aussi de l'éveil de l'enfant à travers le jeu, la parole, l'écoute de l'enfant, la communication bienveillante avec l'enfant et tout ce qui est aussi l'ergonomie, donc adapter l'environnement à l'enfant, etc., etc. Donc l'enfant, tout d'un coup, a été considéré, a été pris en compte comme une personne à part entière. C'est aussi le moment où on voit émerger des documentaires comme Le bébé est une personne, de nombreux ouvrages, dont celui de Frédéric Le Boyer, Pour une naissance sans violence. C'est les belles années du travail de recherche de Michel Audan autour de l'accouchement. Donc voilà, le bébé devient vraiment une personne à part entière qui mérite notre considération et notre respect. Beaucoup d'écoles alternatives ont émergé depuis lors, hein. Depuis les années 70, il y a eu beaucoup de créations d'écoles. Je crois qu'on était à une fréquence d'une centaine d'écoles par an ces dernières années, et je pense que ça continue. Bien sûr, il y a aussi des écoles différentes qui ferment, mais dans les années 70-80, ce qui a été aussi, ce qui a marqué cette époque aussi, ça a été que la pédagogie nouvelle, eh bien, c'est même antérieur à 70, hein, la pédagogie nouvelle, la pédagogie Freinet notamment, la pédagogie expérimentale a trouvé à un moment donné une place au sein de l'éducation nationale, ce qui aujourd'hui est de moins en moins le cas, pour ne pas dire vraiment réduite comme peau de chagrin. Donc tout ça a eu lieu, on a reconsidéré l'enfant, on l'a remis au centre, on l'a considéré comme une personne à part entière, un individu digne de considération, de respect, d'attention. Et puis pour clore tout cela, en 2019, nous avons une loi qui émerge et qui impose aux parents d'éduquer leurs enfants sans violence, ni psychologique, ni physique. Donc c'est l'interdiction des châtiments corporels en France. Un événement très attendu, puisque ça arrive 40 ans après nos voisins suédois qui avaient légiféré depuis bien longtemps. Donc on a tout ce cheminement. Et puis, depuis quelques années, ce que je ressens fortement de là où je suis, à savoir quelqu'un qui est interpellé par les familles, par les parents, parfois même par les enfants, en tant que proposeur d'une éducation différente et d'une approche bienveillante, eh bien c'est un retour médiatique même à la relation de domination. Donc la caricature de ça, c'est vraiment le succès de Caroline Goldman, qui a plus de 2 millions d'abonnés à ses podcasts, qui a une tribune chez Psychologie, qui a une tribune à France Inter. Donc, qui est relayée par les médias mainstream. Et cette critique d'une pédagogie bienveillante, d'une pédagogie où l'enfant a une relation équitable avec les adultes, est complètement remise en question au profit d'un retour de la relation de domination. Qu'est-ce qui motive ça? Eh bien, c'est un sentiment d'être parfois témoin ou victime d'une pratique dite laxiste qui ferait qu'on se retrouve avec des petits monstres qui sont très désagréables à vivre, exigeants, autoritaires, voire violents, puisque les faits qui m'ont été rapportés là pendant ces vacances, c'est une petite fille qui tape sa maman, qui lui donne des ordres et qui semble très excédée par les relations familiales et dont les parents ne savent pas comment agir ou réagir face à des crises de colère et du mécontentement et des injonctions. Donc c'est la grand-mère qui me fait part de cela et qui me demande mon avis et comment je vois les choses. Mais elle est déjà assez convaincue que c'est le retour à un positionnement plus autoritaire qui va être la solution. Et elle a des remarques sur ce qu'il faudrait faire pour que l'enfant cesse de prendre le pouvoir, en fait, hein, sur ses parents. Et tout ça, ça m'a amené à une réflexion sur la relation de pouvoir, à affiner encore la réflexion sur cette relation de pouvoir, parce que même concernant les adultes, on cherche actuellement, on est en recherche, on cherche comment est-ce qu'on peut faire autrement, comment est-ce qu'on peut, est-ce qu'on sait vraiment abolir les relations de pouvoir, oui ou non? Et si oui, évidemment, ça va commencer par l'éducation. On ne pourra pas demander à des adultes de devenir autre chose que ce pourquoi ils ont été conditionnés pendant leur enfance. Et si effectivement on revient à des relations dominant-dominées, à des relations de pouvoir, eh bien, on obtiendra une société régie par ce type de relation. Donc, on ne peut pas, d'un côté, ne pas vouloir transformer ce schéma relationnel dans nos relations à l'enfant, et d'un autre côté, vouloir que dans les entreprises, au niveau politique, au niveau des systémies familiales, etc., on en vienne à bout et on change complètement les règles du jeu. Tout cela fonctionne ensemble. Et quand je me suis posé cette question, j'ai repensé à une expression qu'on avait avec Laurent concernant la gouvernance que nous préconisons, qui est la gouvernance dynamique. Parce que très souvent, nous sommes amenés à expliquer à nos interlocuteurs que pour nous, le pouvoir, ce n'est pas un gros gâteau que l'on met au centre des relations les uns avec les autres, avec l'intention d'obtenir plus de justice en repartageant plus équitablement le gâteau. L'idée que beaucoup de personnes se font d'un pouvoir partagé, et c'est ce qu'on appelle aussi la gouvernance partagée, c'est que ce gâteau-là va être mis au centre et qu'on va faire des parts équitables et que toutes les parts seront équitables et de ce fait, la gouvernance sera plus juste. En réfléchissant d'une manière un peu plus générale, en incluant la question des enfants et en me demandant est-ce que vraiment on est capable d'abolir ces relations de pouvoir, eh bien, je me suis re-questionnée sur le mot pouvoir et je me suis dit, mais le pouvoir, c'est absolument pas ce gâteau. En fait, abolir les relations de pouvoir, ça veut dire qu'il n'y a plus le gâteau. Il n'y a plus le gâteau à partager. On est complètement sur un autre paradigme où on abolit les relations de pouvoir, c'est-à-dire qu'on ne souscrit plus à l'idée qu'il y a un pouvoir à partager. On est dans un autre registre qui est celui de la coopération, où le pouvoir est vraiment celui qui répond à la notion de je peux, je suis capable de, je suis légitime pour, j'ai la souveraineté de, en tant qu'individu. Ça veut dire qu'on reconnaît que chaque individu est un être légitime, légitime dans ses ressentis, légitime dans ses besoins, légitime dans ses affinités, légitime dans ses prédispositions, dans sa culture, légitime en tant qu'être unique qui existe, qui vit, qui respire, qui digère, qui interagit avec son environnement d'une manière à la fois autonome et à la fois interdépendante. Mais l'interdépendance ne se définit plus par des relations de pouvoir, mais plutôt par des relations de rencontre, d'écoute mutuelle, de coopération, de considération pleine et entière. Bien sûr, c'est extrêmement difficile de sortir du connu, hein, c'est Krishnamurti qui a écrit un livre, Se libérer du connu, parce que aujourd'hui, le seul schéma ou la seule représentation qu'on a du monde, c'est la relation de pouvoir, à tel point qu'on l'a même projeté sur la nature en disant il faut se battre pour vivre, c'est struggle for life, c'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort, etc. Jusqu'à ce que petit à petit le regard change et que l'on se rende compte que la nature est un exemple de coopération et de cohabitation. Plusieurs scientifiques ont écrit à ce sujet et c'est absolument magnifique de voir que dans la nature, on n'est pas dans des relations de pouvoir directement, on est vraiment dans une recherche d'équilibre entre tout ce qui vit et que l'idée n'est jamais de sacrifier une espèce, hein, parce que là, c'est vrai qu'on va dans la nature peut-être moins raisonner en termes d'individus, mais plutôt en termes d'espèces, mais plutôt de conserver une certaine homéostasie, où chacun a sa juste place, où chaque espèce a sa juste place, où chaque variété vivante a sa juste place et interagit avec les autres êtres vivants dans le donner et le recevoir. Il y a ceux qui donnent, juste ceux qui sont, ça peut être de la beauté, ça peut être de la biomasse, ça peut être du pollen, ça peut être des fleurs, ça peut être des fruits, ça peut être des champignons, des lichens, de la matière première pour fabriquer des nids, pour fabriquer, pour nourrir, pour... Voilà, donc on donne, la nature donne généreusement et partage ce qu'il y a à partager et reçoit également. Donc reçoit tous les nutriments, l'air, l'eau, le soleil. la nourriture nécessaire pour grandir et se développer. Donc c'est vraiment un système d'échange très complexe mais très équilibré. Il n'y a pas de relation de pouvoir et de domination dans ce fonctionnement. C'est vraiment comment on joue la symphonie de la vie ensemble, comment on fait de la beauté de la vie ensemble, quoi. Chacun à sa place et chacun dans sa spécificité. Et je trouve ça très inspirant parce que nous, les êtres humains, on a dans l'idée qu'il faut vraiment qu'on éduque les enfants à devenir quelque chose qu'on a en tête, en fait, qu'on a prédéfini, qu'on adapte les enfants à. Et c'est comme ça qu'on justifie les relations de pouvoir. Disant, bah, toi, tu sais pas, tu es petit, tu es vulnérable, tu es dépendant, donc je vais t'éclairer sur le chemin et la marche à suivre pour te développer et devenir un individu qui prend part à la société telle qu'elle est. C'est très utile d'avoir plein d'adultes autour de soi quand on est un enfant, hein, et ça, on l'a déjà évoqué, c'est même indispensable. Mais des adultes qui sont là pour accompagner ce qui est vivant chez chacun, pour entendre ce qu'il y a d'unique chez chacun, pour entendre de ce qu'il y a de spécifique chez chacun, pour se laisser surprendre par la diversité et la différence, et non pas pour imposer un modèle que l'on croit bon pour l'enfant, et surtout pas pour l'imposer par la force et la domination. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ces petits-enfants rois? On a déjà eu l'occasion d'en parler. Ce que je voulais déjà poser en base à cette réflexion, c'est vraiment sortons vraiment, abolissons les relations de pouvoir. Donc, quand l'enfant prend le pouvoir sur le parent, en tapant son parent, en lui donnant des ordres qui ne parfois malmènent ce qu'est le parent ou ce qu'il aurait besoin de faire ou envie de faire à un moment M, ou lorsque l'enfant impose un point de vue aux parents, comme par exemple on me disait un enfant qui va imposer que bah, personne ne va en promenade parce que lui il veut pas y aller, et puis du coup bah, tout le monde va s'aligner sur son injonction, ne sachant que faire parce que comme il faut pas le brimer ni le malmener, c'est comme s'il y avait rien d'autre en fait. C'est comme si la seule alternative aux relations de pouvoir, c'était que le pouvoir s'inverse et qu'on donne le pouvoir à l'autre. Comme moi, je ne veux plus prendre le pouvoir sur toi, bah, je te donne tout pouvoir. Et c'est pas ça qui est demandé, du tout. Ce qui est demandé, c'est d'apprendre soi-même et d'apprendre ensuite à l'enfant par l'exemple que il y a autre chose de possible que les relations de pouvoir, c'est se mettre à l'écoute de ce qui est vivant chez chacun. Bah, moi, là, vraiment, j'aimerais aller en promenade avec le reste de la famille. Et toi, tu n'as pas envie de sortir. Est-ce que c'est ça? Alors peut-être que c'est ça vraiment. Peut-être que c'est juste qu'il y a des habitudes qui ont été prises et qui font que l'enfant est en rupture de coopération depuis bien longtemps et que donc il va tester la qualité de ce fonctionnement. Hein, est-ce que ce fonctionnement est solide? Est-ce qu'il tient? À savoir que je peux me mettre en opposition avec tout ce qui est proposé et que finalement je vais toujours avoir le dernier mot et que seul mon besoin va être satisfait. Et parce que c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. L'idée, c'est pas que seuls les besoins des enfants soient satisfaits, même si effectivement l'enfant est dépendant de nous pour répondre à ses besoins. Et donc, tant qu'il est petit, en tous les cas, il va avoir besoin de notre accompagnement et de notre assistance, car il ne peut pas faire par lui-même. Mais dès lors qu'il est en âge de coopérer, ce qui arrive très tôt chez les enfants qui ont été accompagnés de manière bienveillante, eh bien, on trouve des solutions gagnant-gagnant, des solutions qui vont satisfaire les deux parties. Ce qui est important, en même temps, c'est vrai que ça demande beaucoup de présence, beaucoup d'écoute, beaucoup d'accompagnement. D'être parent d'un enfant jeune, c'est évident. On ne peut pas demander à un jeune enfant d'avoir les mêmes capacités, les mêmes ressources qu'un adulte qui est dans son accomplissement et dans sa responsabilité et son autonomie, évidemment. Donc nous sommes là pour l'enfant, nous sommes là pour l'accompagner quand il a peur, quand il est triste, quand il a faim, quand il a un besoin qu'il n'a pas la compétence pour assumer. Donc tout ça, c'est vraiment, il y a du dévouement à avoir pour l'enfant, c'est évident. Mais le dévouement ne signifie pas qu'on se laisse malmener par l'enfant. Ça, c'est d'un autre registre. Alors vous allez dire, parfois, il y a des choses qui malmènent l'un et pas l'autre, et c'est vrai. Parfois, pour quelqu'un, Un parent, ça peut être considéré comme une forme de maltraitance ou en tout cas de moment extrêmement désagréable que l'enfant se mette à hurler dans un magasin parce qu'il aurait aimé qu'on lui achète quelque chose. Et on pourrait considérer qu'à ce moment-là, le parent est un peu otage de cette émotion et il peut se sentir activé par cette émotion-là, c'est certain. Et donc, il faudrait définir aussi ce que veut dire se sentir malmené. Mon repère, c'est vraiment ce que m'a appris ma thérapeute pendant des années, c'est dès lors que tu es activé émotionnellement, tu n'es plus dans tes ressources d'adulte. Dès lors que tu es activé émotionnellement, tu n'es plus dans tes ressources d'adulte. Tu es un enfant à côté de ton enfant et donc tu ne peux pas l'aider. Parce que la part de toi qui peut aider ton enfant, c'est ta part d'adulte. Ta part d'enfant n'a pas les compétences pour aider ton enfant. Donc si au moment où mon enfant est dans un magasin et se met à vraiment avoir un énorme chagrin de frustration, à ce moment-là, si moi-même je deviens rouge de colère, excédée, dépassée, je n'ai plus de patience et je n'ai qu'une envie, c'est de le tirer par le bras et de le sortir de ce magasin violemment, en ayant plein de jugements sur mon enfant, qu'il n'est pas sage, il en demande toujours plus, qu'il est constamment insatisfait, etc., etc. Donc il y a tous les jugements qui arrivent en même temps que l'émotion. À ce moment-là, je ne peux rien pour mon enfant. Et à ce moment-là, ce que je veux mettre en acte n'est absolument pas éducatif, ça n'a rien d'éducatif. C'est juste de la réaction émotionnelle. Qu'est-ce que ce serait d'accompagner un enfant qui est très frustré parce qu'il voulait un objet que l'on refuse de lui acheter? Ce serait vraiment de rester dans ses ressources, mais vraiment, authentiquement. Là, ce que je vous dis, ce n'est pas de l'ordre de la simulation. La simulation n'a aucun intérêt. Ce serait vraiment de pouvoir médier la situation comme un médiateur le fait. Et c'est pour ça que très vite, je vais faire un podcast sur ce que c'est que la médiation. Parce que pendant ces vacances de Noël, je me suis rendu compte à quel point c'était un trésor de bijoux, d'outils absolument indispensables dès lors que l'on a affaire à des enfants. Il y a 9 petits-enfants dans ma famille. Donc il y en a qui sont déjà grands, qui sont déjà adultes, et puis il y en a qui sont très jeunes. Et je me suis rendu compte à quel point c'est un trésor d'avoir entre les mains l'outil médiation pour accompagner. Et ça va très vite. Là où ça pourrait dégénérer en crise, en cris, en pleurs, en insatisfaction, en injustice, eh bien lorsque l'on approche les enfants avec cette compétence de médiateur, en quelques secondes parfois ou quelques minutes, on arrive à trouver des issues qui sont très apaisantes pour tout le monde. Donc, je vais très vite vous faire un podcast pour vous apprendre et vous accompagner sur ce chemin de la médiation qui est tellement important. Évidemment, c'est cela dont les enfants ont besoin et c'est ainsi que l'on peut éviter de promouvoir cette déviance qui est celle que l'on appelle l'enfant roi ou l'enfant tyran, qui est un cran au-dessus. Si votre enfant est déjà dans des dysfonctionnements de pouvoir vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ses frères et sœurs, etc., eh bien, il va falloir désamorcer tout ça. Et ça va vous demander énormément de patience. Et surtout, la première chose à faire, c'est ce travail sur soi qui va permettre d'obtenir un calme intérieur. Et surtout, vraiment, n'entendez pas que, il s'agira, de refouler tout ce qui monte en soi pour le remiser quelque part à l'intérieur dans une espèce de cave à oubli où on va essayer de contenir tout ça avec force et pression, comme si on mettait tout ça dans une cocotte minute, ça ne sert à rien. Parce que ce qui va se passer au mieux, c'est que vous allez être patient, 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 et un jour éclater en colère et en désespoir, en violence en fait, parce que ce n'est pas la démarche. La démarche n'est pas de refouler ce qui se passe en nous, mais de l'accueillir pour le comprendre et le remettre à sa place, c'est-à-dire dans notre histoire d'enfant. Je ne suis pas capable d'accueillir mes enfants dans leurs émotions débordantes parce que je n'ai pas été accueillie dans les miennes et que je suis un être composé d'un grand nombre de refoulements émotionnels qui habitent en moi au-delà du temps et au-delà des événements. Ma thérapeute disait souvent, pour le cerveau, le temps n'existe pas. Nous voyageons constamment au travers des âges différents de notre vie. Parfois nous avons 5 ans, parfois 10, parfois 15, parfois 20, parce que quand les événements viennent réveiller quelque chose de douloureux, une blessure, des événements, une mémoire qui est similaire à ce qui se vit dans le présent. Il y a des points communs ou des similarités qui font qu'il y a ce réveil, cet écho qui se fait et qui nous emmène dans des émotions du passé, alors que nous croyons que ce sont celles du présent. Et nous les justifions en disant, c'est normal que je me sente en colère, mon enfant est en train de faire ceci ou cela. Donc, la bonne réponse éducative à cette situation, c'est la réprimande ou c'est la punition, ou c'est qu'il aille dans sa chambre pour réfléchir, ou c'est que je lui interdise de jouer, de continuer le jeu, ou que je lève la voix, etc., etc. Donc on va se donner des raisons soi-disant éducatives pour apaiser la résurgence émotionnelle qui nous envahit et qui fait que nous perdons nos moyens d'adultes et nos ressources d'adultes. La part d'adulte en nous est un espace intérieur où il y a du calme, où il y a des ressources, où il y a de la créativité, où il y a beaucoup d'écoute, il y a de la disponibilité. Je me sens disponible pour écouter, en dépit de tout ce qui pourrait taper sur des conflits d'injustice, de frustration, etc., etc. Tout ça, c'est vraiment notre héritage culturel, émotionnel, éducatif. Et très souvent, ces interactions, elles sont dramatiques, elles sont mal vécues, elles sont vécues en injustice, elles apportent de la tristesse, elles apportent du drame dans des situations qui n'en valent pas la peine. Mais si vous regardez bien, c'est exactement la même chose qui se passe à d'autres échelles des relations sociales ou des relations humaines. C'est que plutôt que de se mettre autour d'un problème en mode ressource et en mode solution, nous dramatisons émotionnellement la situation et nous nous servons de cette énergie dramatique pour être accusateurs, pour justifier notre violence, pour rentrer dans des conflits qui sont par définition insolubles lorsque ils existent de cette manière-là. Résoudre un conflit, quel qu'il soit, c'est vraiment une compétence de médiateur. C'est vraiment se poser avec le problème, observer le problème ensemble, être à l'écoute de ce qui se passe pour l'enfant. Parce que si nous ne sommes pas légitimes en tant que médiateurs pour déborder d'émotions, l'enfant, il est légitime pour déborder d'émotions parce que c'est le moyen qu'il a. C'est ainsi qu'il est constitué biologiquement. Et c'est vraiment la réponse vivante qui est en lui à ce moment-là. Il n'a pas d'autre moyen. Donc oui, les petits cousins lui prennent tous les feutres qu'il avait pour dessiner et sans lui demander sa permission. Et il se sent excédé et il est au bord des larmes et il parle avec une voix très éprouvée par l'émotion et etc. Donc on peut être aussi dans le déni d'émotion et dire, mais toi t'es grand, écoute, fais un effort, tu pourrais prêter tes affaires quand même. Elle est petite, elle veut rien faire de mal, elle veut juste dessiner. Tout ça, ça marche pas. Pourquoi? Parce que à cet endroit-là, il n'y a pas l'écoute de ce que vit l'enfant, de ce qu'il éprouve. Et être un médiateur, c'est vraiment être à l'écoute de chacun, de manière équitable et dans une forme de neutralité. Alors je sais que la neutralité à 100%, c'est difficile à obtenir intérieurement, mais à force de travailler dessus, à force de s'observer, à force de s'écouter parler, à force de s'entendre et de ressentir à l'intérieur ce qui se passe en nous, comment les choses s'organisent à l'intérieur de nous, comment on peut repérer comment l'enfant intérieur revient sur le devant de la scène sans arrêt pour s'immiscer finalement dans les relations que nous avons à avoir avec les enfants qui sont là autour de nous, ici et maintenant, tandis que nous sommes adultes. Alors, à force de persévérance, eh bien, chacun de nous peut atteindre cet endroit de neutralité bienveillante, de paix, de sérénité, de sagesse pour accompagner les enfants. Et c'est vraiment ce que je vais témoigner dans un prochain podcast pour vous amener vers concrètement et pratiquement vers la médiation. À très vite.